Bonjour, bonjour, on est toujours en direct de Ventrolles, ce petit village perché dans la Drôme, au-dessus de Nyons. Nyons, olive, noire, lavande, bleue, nuit, blanche, la nuit, l'humidité, les rêves étranges, le jour, le soleil qui apparaît derrière la colline, fondu au vert, une caravane passe, un chien aboie. Jack Souvent, qui a dormi là, se lève aux abois, il se regarde dans la glace, il se convainc qu'il faut aller dans les rues tendre le micro. À qui, à quoi ? Arnaud Aymar arrivé hier par le dernier omnibus, puis un peu de stop, puis du vélo, puis poursuivi par un chien qui l'a mordu au mollet, là. À mes côtés aussi, eux au plat, café serré. Alcool loco. Armel M, les doigts sur les manettes, prêts à envoyer du son. Dans les réseaux. Les réseaux, c'est les oreilles dans un verlan qui n'aurait jamais existé. Salut à tous. Bienvenue. Tout un long tentative sonore avec la bouche. On retrouve tout de suite Thierry Paré à Paris pour le journal.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non ?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird.
J'en mangerai. Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour Thierry.
Salut Édouard, bonjour tout le monde.
C'est le journal 7h à 7h02.
Radio Nova.
Est-ce les attentats britanniques qui lui ont donné des idées ? Un étudiant algérien de 40 ans armé d'un marteau a touché au cou un fonctionnaire de police hier au beau milieu du parvis de la cathédrale Notre-Dame, c'était hier après-midi à Paris. En criant « c'est pour la Syrie », l'agresseur qui a été blessé au thorax et arrêté s'est présenté comme, je cite, un soldat du califat. Outre son marteau, l'assaillant disposait aussi de deux couteaux dont il n'a pas eu le temps de se servir. Son domicile a été perquisitionné à Cergy dans le Val d'Oise. L'agresseur n'était pas connu des services de renseignement. Le policier frappé n'a été finalement que légèrement blessé. La police de Londres appelle à lancer un appel à témoins pour tenter de retrouver Xavier Thomas, un Français de 45 ans, porté disparu depuis l'attentat perpétré dans le centre de la capitale britannique samedi. Attentat qui a fait, je vous le rappelle, 7 morts, dont 2 Français, puisqu'une nouvelle victime a été identifiée grâce à son ADN, et il s'agit d'un ressortissant français. Le troisième auteur de l'attentat de Londres a été lui aussi identifié. Il s'agit d'un homme de 22 ans, un Italo-Marocain, qui aurait été intercepté à l'aéroport de Bologne en 2016, au moment où il tentait de s'embarquer vers la Syrie. Reste à évaluer les conséquences de cet attentat sur le premier tour des élections législatives. Elles auront lieu demain. Il aura lieu ce premier tour demain en Angleterre. Emmené par Theresa May, les conservateurs feraient toujours la course en tête, mais si l'on en croit les sondages, la majorité absolue s'éloigne. Alors que la bataille de Mossoul se poursuit en Irak, des combattants arabes et kurdes, soutenus par les États-Unis, sont entrés hier dans l'est de la ville de Raqqa, en Syrie, bastion de l'organisation État islamique que la coalition tente de reprendre depuis maintenant des mois. Le groupe État islamique disposerait de 3000 à 5000 combattants sur place. Le peu de résistance qu'ils ont opposé à l'est de la ville montre que les djihadistes ont établi leur principale ligne de défense à l'intérieur de cette ville de Raqqa. La réforme du code du travail, elle sera bouclée avant la fin de l'été. Enfin, en tout cas, c'est le souhait du gouvernement. Le projet de loi d'habilitation pour légiférer par ordonnance sera à l'ordre du jour du Conseil des ministres le 28 juin, avant d'être voté durant l'été par le Parlement et publié avant le 21 septembre. Parmi les axes de travail gouvernemental, l'État entend repenser l'articulation entre accords d'entreprise et accords de branche. Concernant la réforme de l'assurance chômage, elle sera progressivement mise en œuvre à compter de l'été 2018 et sera ouverte aux indépendants et aux salariés démissionnaires, utilisable une fois tous les 5 ans pour ces derniers. Et puis enfin, une réforme des retraites devrait être discutée à l'automne 2018. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, dont l'application prévue au 1er janvier 2018, a été reporté par Emmanuel Macron, entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2019. Une annonce du Premier ministre Édouard Philippe dans les colonnes du Parisien ce matin. Les élections législatives, on vote donc dans 4 jours, dimanche. Au-delà de l'enjeu politique, l'enjeu économique est aussi très présent dans bien des esprits parce que pour chaque bulletin, ou plutôt chaque bulletin rapportera en moyenne 1,42€ au parti ou à la formation concernée, à condition d'avoir obtenu au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions et d'afficher une parité absolue. Et puis en outre, une moyenne de 37 300€ sera versée aux formations ou partis pour chaque candidat élu. Ce scrutin est donc financièrement, évidemment, vous l'avez compris, vital. Paris va expérimenter l'an prochain des types de bitume qui peuvent à la fois atténuer le bruit de la circulation routière et permettre de rafraîchir l'air. Ça va démarrer par le 14e arrondissement de Paris. Les suites de Roland-Garros, c'est terminé pour Kristina Mladenovic. La Française qui a réussi à se hisser en quart de finale a été battue hier par la Suissesse Timea Bagzinski. Il n'en reste plus qu'une Française en compétition, c'est Caroline Garcia, 23e joueuse mondiale, qui tentera tout à l'heure, si la météo le permet, mais a priori ça va le faire, va tenter tout à l'heure de se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Alors pas face à n'importe qui, face à la numéro 3 mondiale, qui n'est autre que la Tchèque Karolina Pliskova. Et puis les matchs masculins qui étaient programmés hier ont été reportés à aujourd'hui.
Vous avez terminé sur le tennis. J'ai entendu, c'est un peu tendancieux, votre truc, c'est pas n'importe qui. Parce que numéro 3, à partir de quel numéro on est n'importe qui, vous voyez, il y a des trucs,
c'est vrai.
4 c'est encore pas n'importe qui,
non, et 5 si.
C'est,
non, non, c'est
tout venant quoi.
Tous les gens engagés dans le tournoi de Roland-Garros sont évidemment pas n'importe qui, mais là on atteint quand même le gratin.
Oui mais qui devient n'importe qui? Moi je trouve que c'est un peu, tout à coup votre journal, il y a vous excluez des gens. Moi qui suis classé 8 millionième 742e 1634e joueur français à l'ATP, est-ce que vous me rangez où?
N'importe qui.
Ça voudrait dire aussi que les gens dans le public sont n'importe qui.
C'est ça, donc celui qui regarde, il a tort.
Ah si, non, les deux premiers rangs.
Il y a un mépris pour le ramasseur de balles.
Non.
Je vous trouve très.
Non, les deux premiers rangs, ça va. Au-delà, c'est n'importe qui.
Ah voilà, c'est à partir du troisième. Et s'il y a une dame qui a un chapeau devant nous, on lui dit chapeau, madame.
Ah voilà, ça, si elle est aux deux premiers rangs, ça va.
Qu'est-ce que vous faites là, Jack Souban? Thierry, j'ai un souci. Il y a Jack Souban qui est censé être dans les rues. Mais prends ton micro. Alors, Jack Souban. Prenez un micro qui marche, tant qu'à faire. Jack, hier, était dans les rues de Paris. Vous êtes vraiment tombé au Métro Nation sur Cécile Duflot? Vous êtes vendu à des partis politiques pour leur passer la parole?
Demain, je fais Mélenchon.
Et alors, après-demain, vous allez vous taper quelqu'un de l'autre côté.
Bah, hein. Oui, il faut bien gagner sa vie.
Alors, vous êtes arrivé par le train, le Paris-Valence hier.
Oui, on a.
Eugénie Armel, sur lui, vous cherchez en train. C'est important pour l'auditeur.
Oui, c'est important.
Parce qu'on ne comprend pas bien comment se transportent les gens. On croit qu'il y a de l'hélicoptère. Vous étiez en quelle classe de train?
Bon, on était en deuxième classe. Et là, j'ai rencontré mon camarade
Arnaud et Marc. Donc vous êtes arrivés hier. On fait l'émission en direct d'ici.
C'est ça. En fait, on a changé de lieu.
Il y a une vraie douceur dans vos propos, Arnaud. Jack va filer au marché de Nyons, qui est à 5 minutes d'ici, mais le marché, c'est demain. Donc allez dans la rue de Nyons quand même. Et filez, mon vieux.
C'est à droite après le poulailler, c'est ça?
Oui, on a un poulailler le matin.
C'est après les poubelles ou après le poulailler?
Voilà, on vous retrouve tout de suite. Jack, je vous donne 10 minutes, je vous appelle dans 10 minutes au marché de
Nyons. J'y arriverai pas.
À tout de suite, monsieur, dame.
7h-9h, plus près de toi.
Il m'a fait peur, le mec du Parisien, là. Il parle d'immobilier comme on parle de guerre en Irak. C'est pas possible, là.
Il faut atténuer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est au réveil. On est à la limite entre l'imaginaire du rêve et la réalité.
Oui, on n'a qu'un pied dans le réel pour le moment, l'autre est dans les songes.
Et si on casse ça direct, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes.
Autant la Nissan, moi, là, juste avant, j'y ai cru, je l'ai acheté, je ne vous cache pas. Là, il y a 5 minutes, j'étais en train de faire un chèque, et le mec du Parisien m'a ramené une réalité qui est trop... Ah non, mettons un peu de musique, à tout de suite. La France se réveille doucement. Hein. On n'a pas fait la météo tout à l'heure, mais je crois que ça va. C'est la météo la moins précise de la radio. Ici, ça va à peu près. Je regarde par la fenêtre. Écoutez, je crois que ça va aller aujourd'hui. Bouchta, comment ça va à Marseille?
Bonjour Edouard, ça va mon
bébé? Oh là là mon chéri, oh là là, il y a un réveil qui est difficile. Ah, Bouchta,
je me réveille à peine, qu'est-ce qu'il y a? Je dors toute la journée avec les yeux ouverts.
Non, mais je ne sais pas, moi je ne connais pas bien ta vie. Comment ça va ce matin dans ton quartier à Marseille?
Eh bien c'est beau, tranquille, c'est calme, c'est depuis le ramadan, on dirait la fin du monde.
Ah oui, c'est ça, tout le monde est...
Oui, c'est calme, ils m'ont tous mis à la quarantaine.
Ils t'ont mis en quarantaine?
Oui, parce que évidemment, je ne le fais pas, et je ne le fais pas flagrant. Ils ne le font pas, ils se cachent. Moi, je ne le fais pas, et je ne le fais pas.
Mais tu ne le fais pas d'une façon très... Tu viens manger au milieu, tu vas chez les gens manger?
Oui, je cuisine, je mange, je vis comme tous les Français, quoi. Mais ils ne veulent pas, ils veulent que je le fais comme eux.
Mais tu m'as dit que tu soutenais ton père qui, lui, le faisait.
Ben oui, je soutiens mon père, mais ils savent que moi, je fume, je mange, je bois, je goûte, eux, non.
Est-ce que tu fais d'autres fêtes religieuses? Est-ce que, par exemple, le vendredi, tu fais la tradition chrétienne de manger du poisson?
Ouh, non, je ne sais pas, ça m'arrive, hein. C'est vrai.
Parce que tu sais, en multipliant, ça occupe beaucoup si tu multiplies les interdits alimentaires de toutes les religions, si tu fais aussi en plus les Shabbats des Juifs le vendredi soir, tu peux avoir vraiment des semaines religieuses très occupées.
C'est vrai. Shabbat, je le fais souvent grâce à ma voisine. Elle me donne des bonnes brioches. La chalotte, ma maman, elle ne m'en donne pas. Je pense qu'elle a, bon. Elle a les nerfs. Ils ont tous les nerfs en ce moment.
L'humeur n'est pas très bonne, alors.
Oh, c'est vrai. Pendant, il reste encore 15 jours de souffrance. Mais c'est
quels, sont tes rituels du matin, toi? Tu vas tout de suite te laver, tu te coiffes, tu te nourris d'abord?
Eh ben moi, dès que je me lève, j'ouvre la fenêtre, je regarde ce qui se passe. Il n'y a pas un chat, le bar il est fermé, il n'y a rien, mon bon méfie, beau.
Ah oui, parce que tu as un bar assez mouvementé en bas de chez toi.
Ouais, juste en face, mais comme il y a le ramadan, tu sais que c'est interdit le bar pendant un mois, tu pouvais le transformer en coiffeur. Qu'est-ce que je te dis?
Le coiffeur, c'est autorisé.
Oui, tout est autorisé, coiffeur, tout ça, mais le bar, se saouler, manger, vivre, exister, le bon Dieu veut pas. Pendant un mois, il paraît qu'il nous a donné 11 mois dans l'année pour nous. Il nous faut un mois pour lui. Eh ben, je vais lui donner un mois pour lui, qu'est-ce que je te dis?
Écoute, on t'embrasse, on espère que ces deux dernières semaines vont passer vite.
Ah ben mon bébé, je t'embrasse, fais attention là-bas à la Drôme, hein, au boulodrome, tout ça, à la stade Vélodrome, tout ça. J'ai entendu hier, c'est bien.
C'était bien, hein, l'agence de psychanalyse des villes qui nous a parlé de la Drôme.
Psychanalyste. Lui, c'est le meilleur, ouais. Hein, je te jure, il n'y a que Radio Nova qui a trouvé ça. Hein. Personne n'a trouvé psychanalyse des villes.
Laurent Petit, l'agence nationale de psychanalyse urbaine, c'est un type très brillant et qui avait fait un rapprochement entre la Drôme et l'Ardèche et le concept de Drôme à Ardèche, qui est un
animal. Ouais, j'ai bien aimé, mais il n'avait pas parlé de cochonnet.
On t'embrasse très très fort. On retrouve le club des connoisseurs de 7h17.
À 7h17, grosse
bise à toi, Bouchta. L'info remonte de partout. Ça fuse, ça télex, ça télécopie, ça mail, ça envoie des messages de fumée. Partout, on échange des nouvelles. À Paris, Marie Missé, qui est une des premières sur l'info à l'ancienne, une gitane maïs aux lèvres, en train de renifler l'odeur du papier qui sort des rotatives. Comment ça va, Marie?
Je renifle.
Écoute, vous allez renifler le papier, vous allez voir les ouvriers du livre, hein, les légendaires ouvriers du livre
qui sont là. Oui.
Alors qu'est-ce qui vient de sortir là?
Alors j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas sorti sur rotatif papier puisque je l'ai trouvé sur le web, c'est un article sur Télérama.
Le web, je rappelle, c'est la version électronique, hein. Ne cherchez pas à le faire chez vous.
Exactement.
C'est très compliqué, c'est des branchements.
En fait, je crois que c'est des informations qui transitent et ça ne va pas du tout sur le papier, c'est vraiment...
Alors on peut, Arnaud, exemple là, moi j'ai imprimé et du coup c'est sur papier.
Alors, voilà. Si c'est vraiment électrique, n'approchez pas les mains parce que vous risquez de vous faire
mettre des gants.
C'est électrifié pour pas que les vaches s'approchent. Faut faire attention. Qu'est-ce que vous avez vu quoi?
Et j'ai vu un article sur les mots qui se cachent.
Pardon, je
mourir.
Ris parce que votre voix-là était bien, il y avait à côté. Mais oui, les tontons, mais oui, les gâteux, voilà. Alors, excusez-moi, c'était les mots qui se cachent pour mourir.
Oui, en gros, c'est un article qui s'intéresse non pas aux mots qui rentrent dans le dictionnaire, parce qu'on les voit tout le temps, ces articles, quels sont les mots pour 2018. Alors, cette année, par exemple, c'est focaccia hein, qui vient de rentrer dans le dictionnaire. Alors, il y a hipster qui est rentré ou ce genre de choses. Et on parle peu des mots qui en disparaissent du dictionnaire, parce que le petit Robert, comme le Larousse, on soit un petit peu moins disserte sur ces mots-là. Ils sont moins à l'aise avec le fait d'enlever des mots de la langue française. Par exemple, le petit Robert, ils aiment vraiment pas ça. Alors, ils admettent à demi-mot qu'ils enlèvent certains mots que plus personne n'emploie, comme computer, qui était avant dans le dictionnaire pour dire ordinateur. Alors,
le computer a disparu, mais il était apparu récemment. Donc c'est
oui,
pas...
alors il est rentré, il est sorti comme.
Il n'y a pas d'appauvrissement. Morel, c'est le légendaire, il s'appelle Ray, non, le mec du petit Robert. C'est une légende, c'est un personnage incroyable.
Monsieur
alors
Ray,
dites-moi.
Il y a aussi drink pour aller boire l'apéritif, ça, on a arrêté.
Si c'est que des anglicismes, il n'y a pas des plus vieux mots français qui disparaissent.
Comme torcher, par exemple.
Figurez-vous, dans le Larousse, ils font une sélection un petit peu plus pointue des mots, c'est-à-dire qu'il y en a moins que dans le petit Robert. Et donc, oui, ils en enlèvent. Alors, par exemple, on nous explique, en plus des mots qu'on enlève, les mots pour lesquels il y a des grosses disputes. Par exemple, il y a eu un débat super houleux chez Robert cette année sur le mot orilag. C'est une variété de lapin exploitée pour sa fourrure et sa viande de luxe. Et
alors peut-être qu'on l'employe... Oui, pardon.
Ouais, mais ça a fait... Mais ils en ont parlé des heures. Ils se sont embrochés, engueulés. Et finalement, orilogue n'est pas dans le dictionnaire cette année.
Et le lapin s'est sauvé.
Orilog n'y est plus, mais est-ce que l'animal existe encore ?
Orilog, l'animal existe, sa fourrure est encore utilisée, est encore exploitée, sa viande aussi, mais le mot n'est plus dans le dictionnaire.
Mais si l'objet existe, le mot doit rester. Si on ne peut pas nommer une chose qui existe,
oui,
c'est très inquiétant.
Mais
si je vois passer un orilog, je dis quoi maintenant ?
Eh bien, vous dites tout de même orilog, par exemple. Vous avez aussi
bien,
le droit de dire
conducteur. Elle n'a pas la fourrure particulière et dans la nourriture.
À la fourrure bien utilisée, bien exploitée. Oui, et ben, c'est des énormes débats en fait, auxquels on a peu accès, ces débats-là, qui sont souvent très drôles. C'est très drôle de lire, d'imaginer 10 personnes qui sont en train de s'engueuler sur leur orilag, de monter sur leurs grands chevaux, et pour des bonnes raisons, comme vous le dites.
Mais bien entendu, la disparition de leur orilag qui a lieu alors que nous, on ne nous dit rien, vous avez raison, on nous ment, on nous manipule. Pendant que Computer disparaît, pendant que Drink s'effondre, pendant que leur orilag continue à courir en toute impunité sans que plus personne puisse l'appeler par son petit nom, la vie continue. Et à côté de moi, il y a Benjamin.
Bonjour.
Benjamin, bonjour. Benjamin, vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas de la Drôme, vous êtes de Paris, mais vous m'avez suivi jusqu'ici pour passer à la radio, m'avez-vous dit, en t'accueillant à la maison.
En fait, je suis à la limite de Paris, je suis légèrement vers Montreuil.
Vers Montreuil, ce qui est très gracieux, c'est qu'au fur et à mesure que vous parlez, ressort un petit accent provençal que vous m'aviez caché.
Parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les lieux que je visite. Et bon, non, ça va, en fait, non, je n'ai pas du tout d'accent.
Vous êtes venu en Drôme provençal, vous êtes instituteur.
C'est ça, je suis instit. Et j'essaye de mener en parallèlement, dans ma vie privée, une carrière de chanteur. Donc j'essaie de trouver...
Un public ?
Un public et ma voix poétique.
Ah oui ?
Et peut-être aussi...
Un public.
Un public et des organisateurs qui pourraient...
Vous programmer face à un,
un public.
Un public.
Un public.
Un public qui pour le moment est putatif. Qui est encore dans le dictionnaire.
Qui est dubitatif.
Enfin, qui est pas hâtif pour se ruer à vos concerts, en tout
cas. L'instant, non.
Pour l'instant, non. Il y a des chansons déjà, Benjamin ?
J'ai déjà une chanson.
Elle est programmée, Armel, sur Nova ?
Non,
ça n'y est pas encore. On me fait signe.
Bah justement, peut-être.
Peut-être qu'on peut. Eugénie, on peut mettre Eugénie là, et on demandera à Rudy. Alors, chantez votre chanson là, vous êtes venu, c'est quoi ? C'est un piano ?
C'est une. C'est en bois, ça fait
C'est une guitare, parce que je m'y connais mal en instrument, c'est pour ça. Alors, Benjamin, quel est votre nom d'artiste ?
Benjamin.
On va tenir les micros.
En réalité, je cherche encore
un public.
Mon nom de scène.
Ah, un nom de scène aussi.
Et un look.
Un look, oui, parce que là, on ne voit pas bien Benjamin, effectivement, il se cherche.
Et un logo.
Et, oui. Et des sponsors. Comment s'appelle la chanson ?
Nous sommes les naufragés.
On vous souhaite le meilleur, Benjamin. On vous souhaite trouver un public. Je vous demanderai de rester à l'écoute de la chanson de Benjamin. Merci à tous.
Nous sommes les naufragés.
Ça va être évident.
Perdus dans les étoiles. Devant la persistance de la mélancolie, les volets sont tirés sur nos maigres existences, étalés sur ce grand drap, les éclats des couleurs du plafond. Reflétant l'extérieur, il nous restera qu'un jour. Il nous restera qu'une nuit pour nous aimer encore, pour mélanger nos corps une dernière fois. Donne-moi la clé. La clé de ta tour, la clé de ton corps, la clé de ta ceinture,
oui.
De chasteté, de chasteté, de chasteté, de chasteté.
Benjamin, en direct sur Nova. Aujourd'hui, chanteur seul, face à l'indifférence, face à des salles vides, pourquoi certains ont-ils le droit de s'exprimer, d'autres non ? Pourquoi certains ont du talent et d'autres non ? Pourquoi cette injustice totale ? Pourquoi ce goût pour la qualité ? N'avons-nous pas un tout petit peu de temps à donner ? D'oreilles à tendre ? Face à notre indifférence, Benjamin risque de ne plus jamais chanter. Prenons bien tout ça en compte.
mes yeux et mes mains.
Pourra-t-on continuer à se regarder dans une glace en sachant que Benjamin ne pourra plus s'exprimer ? Qui sommes-nous pour dire que Benjamin n'a aucun talent ? Qui sommes-nous ? Très belle.
Donne-moi la clé.
Je vais vous montrer comment on finance la chanson de Benjamin.
La clé de ta tour. La clé de ton corps.
Benji.
La clé de ta ceinture.
Benjamin, c'est Edouard. C'est le public, c'est moi.
Hein, bonjour.
Je vais vous financer par ce qui suit. C'était bien, en tout cas.
7h, 9h, plus près de toi. Nova.
7h, 9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Benjamin, dans une minute, je serai obligé de vous arrêter pour les infos. Mais là, vraiment, là, vous pouvez vous lâcher, là. C'est toujours un trou d'audimat vers 7h29. Donc autant le combler. Si vous souhaitez l'avoir chez vous, contactez Nova, vous aussi.
Donne-moi la clé.
Si vous ne souhaitez pas l'avoir chez vous, contactez-nous aussi, parce que c'est sympa de se contacter, ça fait des échanges.
Il nous restera qu'un jour.
Par mail, par...
Pour mélanger nos corps.
Ou bien avec des enveloppes timbrées. Avec des timbres retour. Ou sur ukulélé.
Oh, il ne restera plus rien.
Ou sur Kiss Kiss Bang Bang.
Que cet amour immense.
Ou en venant à Nova pour que tout ça cesse.
Que ce ciel au plafond.
En venant directement pour que tout ça s'arrête.
Et nos paumes scellées par la transpiration.
Saisissez cet homme, le journal de Thierry Paré.
Radio Nova.
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui devait entrer en vigueur en application le 1er janvier 2018 entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2019. Une annonce du Premier ministre Édouard Philippe dans les colonnes du Parisien ce matin. La réforme du Code du Travail, elle sera bouclée avant la fin de l'été. Enfin, en tout cas, c'est le souhait du gouvernement. Le projet de loi d'habilitation pour légiférer par ordonnance sera à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 28 juin avant d'être voté durant l'été par le Parlement et publié avant le 21 septembre. Alors, on connaît déjà les grands axes de travail du gouvernement. L'État entend repenser l'articulation entre accords d'entreprise et accords de branche. Concernant la réforme de l'assurance chômage, elle sera progressivement mise en œuvre à compter de l'été 2018 et sera ouverte aux indépendants et aux salariés démissionnaires. Enfin, une réforme des retraites devrait être discutée à l'automne 2018. Un étudiant algérien de 40 ans armé d'un marteau, a touché au cou un fonctionnaire de police au beau milieu du parvis de la cathédrale Notre-Dame hier après-midi à Paris. En criant « C'est pour la Syrie », l'agresseur qui a été blessé au thorax par un policier et arrêté s'est présenté comme, je cite, « un soldat du califat ». Son domicile a été perquisitionné à Cergy, dans le Val d'Oise. L'agresseur n'était pas connu des services de renseignement et le policier frappé n'a été finalement que légèrement blessé. La police londonienne a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Xavier Thomas, un Français de 45 ans, porté disparu depuis l'attentat perpétré dans le centre de la capitale britannique samedi. Attentat qui a fait, je vous le rappelle, 7 morts, dont 2 Français. C'est officiel, une nouvelle victime a été identifiée grâce au test ADN et il s'agit d'un ressortissant français. Alors que la bataille de Mossoul se poursuit en Irak, des combattants arabes et kurdes soutenus par les États-Unis sont entrés hier dans la ville de Raqqa en Syrie, bastion de l'organisation État islamique que la coalition tente de reprendre depuis des mois. Le groupe État islamique disposerait de 3000 à 5000 combattants. Le peu de résistance qu'ils ont opposé montre que les djihadistes ont établi leur principale ligne de défense à l'intérieur de la ville. Il fallait choisir entre les villes de Lahti en Finlande, Tallinn en Estonie, Gand en Belgique, Lisbonne au Portugal ou Oslo en Norvège. C'est cette dernière qui a été choisie, enfin plutôt désignée. La Commission européenne a désigné la capitale norvégienne, capitale verte de l'Europe, pour 2019. La coalition au pouvoir en Norvège, composée des sociaux-démocrates, des Verts et du Parti socialiste, s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2020 et de 95% d'ici 2030. C'est un des objectifs les plus ambitieux du monde. D'ailleurs, je crois que c'est le plus ambitieux du monde. Les suites de Roland-Garros, c'est terminé pour Kristina Mladenovic. La Française qui a réussi à se hisser au quart de finale a été battue hier par la Suissesse Timea Bagzinski. Le score 6-4, 6-4. Aujourd'hui, Caroline Garcia tentera de faire mieux face à la numéro 3 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova. Et puis chez les hommes, eh bien, les quarts de finale programmés hier ont été reportés à aujourd'hui. Il faut dire qu'hier, il a beaucoup plu, beaucoup de vent et beaucoup de pluie sur Roland-Garros.
Il a plu à tout le monde. Dites-moi, Thierry Paré, oui. Quand on est désigné comme capitale verte de l'Europe, donc en fait, ce n'est pas une récompense, c'est incitatif pour... On vous pousse à faire quelque chose, à réduire vos effets de serre.
Ouais, c'est ça, c'est symbolique, effectivement.
Ah bon, parce que moi, si on me désigne pour quelque chose, moi, je croyais que c'était pour des choses passées, pour me féliciter.
Ouais, non,
c'est
si
pas
on
pour
te
forcer à changer mon alimentation.
Non, si on te désigne comme capitale verte, à mon avis, il faut se poser quand même des questions. Je pense.
Oui, ça, c'est vrai que si ça nous tombe dessus,
ça va pas aller.
Parce que si vous aussi, par exemple, si pareil, je vous connais, si on vous dit de réduire de 50% vos effets de serre, vous n'allez pas être content. Bon, on retrouve Jack souvent dans les rues de Lyon. Il y a beaucoup d'effets de serre, Thierry Barret. Rue de Lyon, ce matin, il était à un quart d'heure avec nous, il est parti dans les rues. Jack souvent.
Ouais. Alors là, là, le soleil se lève et il y a une bande de briscards. Une bande de briscards.
Une bande de jeunes. Une bande de jeunes un peu énervés, là. Ah ouais. Nous allons effectivement effectuer une sortie cyclotouriste. On a prévu 90 km à peu près. Il fait un grand beau à Nyon. Hein. Le soleil est déjà là, le ciel est bleu. Il n'y a pas de vent. C'est idéal pour un cycliste. Hein. Donc voilà.
Oui, bonjour monsieur. J'ai entendu ce thème-là, donc jeune en colère et cyclotourisme. Donc votre colère, vous arrivez un petit peu à la canaliser vers le vélo.
Oui, absolument, oui. Ça permet effectivement de se défouler, mais aussi de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, c'est clair.
On entend à votre voix, on est sûrement dans la tranche 15-20, 15-25.
Donc, oui, absolument, vous avez tout compris.
Vous êtes combien là ?
Bandado, quoi.
On a même du vin.
Ben, ça dépend des jours. Aujourd'hui, on est un peu moins de 20 là, oui, une bonne quinzaine.
Ah oui, d'accord, vous êtes 20, vous avez une tenue très technique là ?
Ah, on a une tenue, oui, adaptée hein, à la pratique du vélo, hein, vous savez bien, le cuissard là, qui nous fait ressembler à des bébés avec des couches. Hein, bon, ça, c'est
alors décrivez un peu, monsieur, parce qu'on va érotiser l'émission un peu ce matin. Donc vous êtes une vingtaine de gars là, à vélo dans les rues Nyons.
Oui, absolument.
À parcourir la région.
Avec des couches culottes, là. Hein.
Quelle couleur ?
On a un superbe maillot, là, aux couleurs, comme on dit, du côté de Perpignan, vous savez, sang et or, là. Rouge et jaune.
De couleur catalane.
Le jaune est important, simplement en termes de sécurité, parce qu'il faut qu'on nous voit sur la route. Hein. Vous savez que malheureusement, bon, je ne vais pas gâcher le plaisir, mais malheureusement, on est des cibles là, pour les automobilistes. Donc, plus on nous voit, plus on est en sécurité. Ça, c'est clair. Hein.
Alors, c'est des routes légendaires, c'est des routes qu'on voit souvent pendant le Tour de France, puisqu'on est aussi pas loin du Mont Ventoux. Il y a énormément de cyclotourisme.
Oui. Absolument, oui. Eh bien, pour ne rien vous cacher, on a fait le Mont Ventoux donc pas plus tard que dimanche avec le club. On était là aussi une vingtaine. On a parcouru une région, je ne sais pas si vous connaissez, mais on est parti de Nyons pour aller sur les gorges de l'Anesque, endroit absolument merveilleux. Oui. Et arrivé à Sceaux, on a gravi le Ventoux et on est rentré à Nyons, soit une sortie de 150 km et 2500 mètres de dénivelé. Donc on était relativement fatigués en rentrant. Mais ça va, on a récupéré 2 jours de récup et on repart aujourd'hui.
Le plaisir, c'est l'effort physique, c'est les paysages. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pédalez comme
voilà,
ça
je crois que vous avez tout dit. Hein. Il y a à la fois le paysage, hein, parce que les paysages sont magnifiques. Même si on roule dans la région depuis, pour ce qui me concerne, une dizaine d'années, on se lasse pas du paysage. Et ensuite, bon, ben, il y a aussi l'effort physique. Hein. Il y avait parmi nous donc un cyclo. Niancé qui gravissait le Ventoux pour la première fois, je peux vous dire que c'est un grand, grand, grand bonheur pour lui.
Quand et d'être tous ensemble,
pendant
le côté...
2h30, pardon oui.
Non, le côté les copains aussi, d'être tous ensemble.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, la bière à l'arrivée, c'est vraiment aussi un grand bonheur. Paraît-il que c'est bon pour le foie. Hein. Mais voilà, il y a des enzymes qui sont nécessaires et qui sont bons pour le foie. Voilà.
Oh ben on va rêver de vous imaginer tous les vins, là, sur les collines de la région.
Oui, il y a quelque chose sur Grignan aussi dimanche, il disait.
Oui, alors, oui, notre président Gérard l'a donc précisé à certains d'entre nous que dimanche, donc, il y a une réunion sur Grignan et on va essayer d'y aller parce que nos amis de Grignan nous ont fait l'honneur de venir là parce qu'on a organisé la randonnée des Oliviers samedi dernier. Nous étions un peu plus de 120 là, et donc des participants du club de Nyon, de Grignan. Et donc on va aller leur rendre l'appareil, voilà, tout simplement.
C'est la guerre des boutons. Bonne journée sur les routes.
Ça, oui. Merci beaucoup.
Salut, merci beaucoup. À vous.
Oui, au revoir.
Marie Missé, vous êtes à Paris en ce moment ?
Oui, allô Edouard.
Et vous
Edouard.
Êtes avec Jean-Christophe Notin.
Tout à fait, je suis en train de parler à
Jean-Christophe Notin. De la DGSE, des mystères des services secrets. Bonjour, je vous vois.
Vous nous voyez ?
Bonjour Jean-Christophe Totin. Oui, je vous vois par un système compliqué sur mon téléphone. Je vous passe la parole, Marie.
Alors, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Il y a votre livre qui est sorti début juin, Les guerriers de l'ombre. C'est consacré aux agents clandestins pour la plupart de la DGSE. C'est paru aux éditions Taillandier. Il y a un documentaire ce soir du même nom qui passe sur Canal+. Et alors, dans ce docu, Et dans le livre, on voit des agents de la DGSE qui se livrent sur des sujets assez rares, sur la famille, sur les cas de conscience, sur l'intimité, sur les difficultés humaines du métier aussi. Alors, si je m'abuse, c'est pas la toute première fois que vous, vous avez des contacts avec les services secrets français, ce qui explique peut-être d'ailleurs la facilité avec laquelle vous recueillez les confidences.
Exactement. À vrai dire, le livre et le documentaire, c'est la conséquence d'une bonne quinzaine d'années d'exercice dans ces milieux.
Parce qu'on a du mal à croire que d'un coup, un agent de la DGSE va parler comme ça à un romancier, non, un essayiste.
C'est assez impensable. Ouais. Et puis surtout, avec les clandestins, il faut les connaître. Il faut connaître leur identité.
Ah oui, c'est vrai.
Vous ne pouvez pas taper à la porte de la DGSE en disant « Bonjour, je voudrais rencontrer des clandestins ».
Et d'ailleurs, on est un des seuls pays en France à avoir d'autant recours à des agents clandestins. Comment ça se fait ? Je pensais que c'était un truc d'espion.
Et oui, ça fait un peu partie du mythe de l'espion, mais il faut hélas, enfin, je dirais à notre avantage, il faut un gros savoir-faire, donc une longue expérience, et puis il faut également que les politiques prennent le risque d'envoyer des gens comme ça dans des conditions pareilles à l'étranger. C'est un gros risque politique.
Prennent le risque politique, c'est-à-dire d'envoyer des humains, des Français.
Des hommes et des femmes qui représentent la France. Donc s'ils se font arrêter et qu'ils sont dévoilés, c'est évidemment un gros souci pour la France. Ça devient une monnaie d'échange.
Et alors quand ils sont, par exemple, arrêtés ou parfois enlevés, comme on le voit dans votre documentaire, ils sont pas censés cacher qu'ils font partie de la DGSE ou en tout cas des services.
Ils doivent le cacher le plus longtemps possible. Oui. À vrai dire, c'est toute leur vie. Ils passent 24 ans même pour la plupart, à surtout cacher leur identité, à cacher leur vie à tout le monde, que ce soit
à leur famille, à leurs amis.
La famille, au travail, à la DGSE, même à l'intérieur.
Même à l'intérieur de la DGSE. Il ne faut pas que d'autres gens qui travaillent à la DGSE sachent.
Et surtout pas. Il faut que le secret soit vraiment le plus préservé possible.
Alors, on fantasme beaucoup sur le recrutement. On se dit comment on est approché par les services secrets. On est là, il y a des tics ou distiens, il y a un mec qui est très bon dans la police, la gendarmerie, dans d'autres métiers. Comment est-ce que tout à coup on devient ce fameux mot espion ?
Alors vous avez deux cas, vous avez soit vous candidatez à la DGSE et les gens du service clandestin ont accès à votre dossier en fait, donc voient votre CV, vos qualités, vos compétences, soit vous pouvez avoir dans les universités ou dans différents endroits des gens qui vont vous orienter en fonction de, pareil, si vous pratiquez des langues très très rares ou si vous avez une connaissance très profonde en géopolitique ou... S'ils repèrent chez vous des qualités également de caractère et de comportement, il faut quand même une certaine audace, un certain courage.
Ça veut dire qu'il y a aussi des gens, des professeurs infiltrés à Sciences Po, parce qu'on voit qu'il y en a certains qui sortent de Sciences Po et qui se disent « Ah, celui-là, il aurait peut-être les compétences ».
Non, non, ça fait partie des légendes.
Ou aux langues orientales.
Ou aux langues, oui, ça c'est...
Et l'autre fantasme, c'est les agents dormants. C'est un type qui tout à coup a arrêté tout ça et 25 ans après, il est rappelé, il reprend du service.
Non, non, ça fait hélas aussi partie des légendes. Quand vous sortez de la DGSE, vous ne faites plus partie de la DGSE. C'est terminé.
Vous évoquez beaucoup la question du moteur avec vous. Qu'est-ce qui pousse des gens à avoir un métier aussi dangereux, aussi solitaire, on l'a dit, puisqu'ils le cachent eux-mêmes à l'intérieur même de leur métier, qui présentera des cas de conscience forcément à un moment donné. Et en plus, même quand on est héroïque, on a le droit de le dire à personne. Qu'est-ce qui peut pousser des gens vers ce genre de vie ?
Alors, si je voulais être très académique, les grands mots, le patriotisme, le service du pays, de la France, etc. Mais à vrai dire, c'est surtout la recherche d'adrénaline, de faire un métier interdit, de braver l'interdit. Et même, in fine, de faire des choses assez exceptionnelles. Et même le fait de ne pas pouvoir raconter, c'est en soi une recherche sur eux-mêmes. C'est assez fantastique. Et en effet, c'est ça qui est magnifique chez eux. Ils font des choses exceptionnelles et ils ne pourront jamais en parler.
Ah, c'est vrai qu'à l'heure où tout le monde essaye d'exposer sa vie, etc., quand on a une vie exceptionnelle comme ça, surtout de rien dire, c'est presque de la dissidence aujourd'hui.
C'est une forme de dissidence, oui.
Et est-ce qu'on n'est pas face quelque part aussi à une opération de com' de la DGSE via le Bureau des Légendes ? On sait que depuis la première saison, il y a eu beaucoup de gens qui ont été recrutés, de gens qui ont posé candidature, parce que ça fait un petit peu plus rêver, via ces agents qui... On imagine que la DGSE a autorisé ces agents aussi à se confier à vous.
Alors ça, c'est ce que je tiens à souligner. Non, non, la DGSE n'est absolument pas partie. Une fois de plus, je ne suis pas allé taper à la porte de la DGSE en disant « je veux faire un documentaire sur les services clandestins ». C'est moi, je les connais depuis une bonne dizaine d'années pour la plupart. Et donc, c'est sur cette relation de confiance et à vrai dire d'amitié pour la plupart qu'on a fait ce film. Donc la DGSE va le prendre tel que. Elle n'est pas du tout partie prenante. Pas du tout.
Ouais, Edouard.
Le fameux service action, Jean-Christophe Notin.
Oui.
Moi, ce qui me fascine, c'est le service action.
Oui, non,
est-ce que dans l'action, c'est forcément de la suppression d'hommes ou c'est beaucoup de collecte d'informations ?
Mais exactement, c'est beaucoup de collecte d'informations, c'est beaucoup de missions militaires, de formation. Les opérations homo, c'est vraiment, vraiment l'exception de l'exception. C'est très, 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 très rare.
D'ailleurs, on peut chiffrer aujourd'hui le nombre de pays dans lesquels des agents français sont en opération.
Alors, ne mangez pas le chiffre
exact. Au moment
exact.
Où je vous parle, à votre avis, on est, dans quel pays est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'il y a des types qui marchent où ? Dans les rues de Bamako, de Bagdad, à New York, ils sont où là ?
Vous parlez par grandes zones, on va dire l'Afrique, l'Afrique francophone, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie.
C'est combien de personnes à peu près aujourd'hui, le service Action ?
Ah, le service Action, c'est entre 900 et 1000 personnes. Le service clandestin, c'est beaucoup, beaucoup moins. Quelques dizaines.
Une des choses qu'on repère un petit peu dans le documentaire, c'est aussi ce plaisir de la manipulation et du contrôle, d'être caché, de pouvoir contrôler les autres. D'ailleurs, ils donnent un peu des clés. Il faut faire appel à l'ego, il faut faire appel à l'argent. On sent même une déformation professionnelle parfois quand une des femmes agents dit qu'elle fait ça avec sa famille aussi pour ne pas avoir à parler de son métier. Elle les manipule aussi en les faisant parler d'eux et en restant toujours cachée. On sent qu'il y a quand même un petit bonheur, un petit plaisir dans le fait de tirer les ficelles comme ça.
Ah mais évidemment, oui. Et puis évidemment avec leur famille, parce que c'est assez terrible. Hein. Donc j'ai même des cas en tête qui me reviennent là de Saint-Syriens, donc qui sont promis normalement au plus bel avenir au sein de la carrière militaire. Quand vous êtes à la DGSE, vous êtes forcément un peu borné dans le grade. Donc vous allez terminer lieutenant-colonel, colonel. Donc vous avez votre famille, vos plus proches qui vous disent
« Mais qu'est-ce que tu fais ?»«
Mais t'as raté ta carrière, t'es complètement nul. » Alors que le type fait des trucs fantastiques à longueur de journée, mais il ne peut pas en parler. Donc vous avez des repas de famille, vous avez des gars à côté qui pérorent, des énarques, parce que j'ai le cas d'un énarque qui pérorait, donc il racontait toute sa vie de cabinet, etc. Et il avait en face de lui un type qui faisait des choses exceptionnelles et qui ne pouvait rien dire. Et qui s'en portait très bien. Et oui. C'est ça qui est encore plus beau.
Et qui même peut-être y prenait plaisir au fait.
Vous
me prenez pour un con, mais alors c'est moi qui le vous.
Mais ils sont obligés de se faire prendre pour des cons. C'est ça le pire. C'est qu'il faut que la famille croit que. La famille, hors la femme, hors les plus proches. Il faut que la famille croit qu'ils font le métier le plus insignifiant au monde.
Le rasoir, elles le disent.
Le rasoir, oui, c'est ça le but.
Jean-Christophe Nortin, c'est votre livre s'appelle Les guerriers de l'ombre, les agents clandestins de la DGSE parlent pour la première fois. C'est aux éditions Taillandier. Le documentaire Les guerriers de l'ombre, c'est ce soir sur Canal+. Vous-même, est-ce que vous mentez bien dans la vie, Jean-Christophe Nortin ?
Jamais. C'est mon principe de vie. Je ne mens jamais.
Voilà, c'est le fameux « je ne mens jamais », mais si on dit « je mens de temps en temps », on ne sait pas si c'est maintenant ou pas.
Ah non, aujourd'hui, je vous promets que je ne dis que la vérité.
Marie, je vous laisse finir de cuisiner sur une dernière question, Jean-Christophe Nottin.
Alors, à part cette phrase que j'avais envie de faire ressortir, il n'y a que dans les pièges à rats que le fromage est gratuit, qui m'a beaucoup plu et que dit un agent à un moment. Il y a aussi cette question de psychologiquement, on se fait parfois avoir par son identité fictive. Il y a ce moment assez fou où un agent raconte qui rêve parfois en identité fictive et qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas cette personne aussi. Donc,
C'est là, vous voyez, les conséquences de ce métier. Ils le vivent 24 heures sur 24. Certains disaient, par humilité d'ailleurs, nous ne sommes que des comédiens, mais ce sont des comédiens à vie, en permanence. Donc même quand ils sont tout seuls dans un trou à rats, il faut qu'ils continuent leur rôle. Même s'il n'y a personne autour d'eux, il faut qu'ils continuent à se faire passer pour X ou Y, mariés à X ou Y, alors que sans doute personne ne les écoute. Donc c'est un métier de dingue. Et sur des années.
Il se pose la difficile question du retour à la vie normale ensuite.
Ça, c'est le plus dur. Là, le sas de décompression est très très dur.
On peut aussi se faire passer pour une journaliste à Radio Nova et on ne sait rien de vous. Merci Marie Misset. Merci Jean-Christophe.
Merci à vous. Merci.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
Leïla, tu es à l'école où toi ? Tu es à Nyons ?
À 10 ans.
Comment tu y vas le matin ?
Bah, habillée.
non. Je voulais dire, tu vas pas en stop, tu vas pas en voiture, tu vas en quel moyen de transport ?
Bah, en voiture.
Mais habillée, c'est drôle que tu me dises ça, parce que est-ce que tu fais... Moi, quand j'étais à l'école, je faisais toujours le cauchemar que j'avais oublié mes affaires, que j'étais à l'école, que j'avais oublié mon pantalon. Tu ne fais pas des mauvais rêves comme ça ?
Non.
Bon, alors ça va à peu près. Leïla, qu'est-ce qui se passe à l'école cette année ? Quels sont les enjeux ? C'est quelle année cette année ?
En quoi ? Je suis en CE2.
Oui.
Et.
C'est une année. Tu penses que c'est une année importante la CE2 ? C'est une année qui décide un peu de toute ta carrière professionnelle ou pas ?
Non.
T'es pas obligé de. On t'a pas dit, tiens, en CE2, faut déjà choisir son métier, par exemple ?
Non, pas du tout.
Et toi, t'as une petite idée ou pas ?
Pas encore, j'ai le temps.
Entre quoi et quoi, par exemple, tu imagines ? Entre quoi et quoi ?
Entre maîtresse et vétérinaire.
Alors, tu peux tout à fait faire les deux ? Hein, puisque là, on a Jean-Anne Mistral, notre poète, qui est là, qui pour le moment et dans la nature. Vous avez deux métiers, Jean-Noël, vous aussi?
Oui, je suis à la fois poète,
oui,
et à la fois je suis marcheur. Je marche.
Voilà. Mais vous vivez plus de la marche que de la poésie?
Oui, tout à fait.
Oui,
parce que je peux ramasser des choses par terre, par
alors
exemple.
Alors que votre poésie...
Avec ça, je peux me nourrir.
Leïla, c'est une poésie que tu vas nous dire ce matin. On va lui mettre son petit jingle. Il n'y a pas de raison, écoute.
Sous le pont Mirabeau, coule la Seine.
Un enfant, un poème.
Un enfant, un poème.
La joie venait toujours d'après la Seine.
Il s'appelle comment ton poème?
Il s'appelle Les deux sorcières.
C'est à l'école que tu l'as dit?
Oui.
Comment ça se passe? On se lève, la maîtresse dit... on est volontaire ou c'est la maîtresse qui désigne la personne qui va dire un poème?
On s'inscrit sur un tableau et le jour même, après, c'est à notre tour.
Et celui-là, tu l'as déjà dit ou pas?
Oui.
Comment ça s'est passé?
Ça s'est bien passé, j'ai eu tout bon.
Tu as eu des bons échos, après il y a eu une belle rumeur autour de ce poème, ça a bien buzzé. Alors on écoute Leïla, on t'écoute.
Les deux sorcières. Deux sorcières en colère se battaient pour un balai. « C'est le mien, » dit la première, « je le reconnais. »« Pas du tout, » répondit l'autre, « ce balai n'est pas le vôtre, c'est mon balai préféré. Il est en poil de sanglier et je tiens à le garder. » Alors le balai en eut assez. Soudain, il s'envola et les deux sorcières restèrent plantées là. Corinne Albo.
Corinne Albo, qui est dans son propre poème, tu lui as fait la gentillesse de signer directement. C'est un poème qui t'a bien plu?
Oui.
Et tu sais pourquoi?
Parce que y a du ton et c'est rigolo parce qu'elles se battent pour un balai, les sorcières. Et
ça arrive souvent dans la vraie vie. Jean-Noël Mistral, vous aussi, ce poème vous a plu? Je vous ai senti pendant tout le poème de Leïla, vous étiez tout en émotion aussi.
J'étais frissonnant comme un lapin qu'on chasse. Je savais plus où me mettre.
C'est ça, vous êtes devenu proie. Vous n'étiez plus chassé, vous étiez chassé.
Oui, j'étais comme... Je courais dans une forêt imaginaire. On m'arrachait mes vêtements, on m'obligeait à manger des pommes et je tombais dans les vapes.
Tout ça? Juste sur un poème d'une enfant? Dis donc, alors ça, c'est peut-être... Il faut peut-être vous ménager. Vous-même, vous n'êtes pas venu... Jean-Noël, vous nous avez rejoint ici à Agnon, ce qui est une région que vous connaissez bien, la Drôme provençale.
Oui, c'est un peu un morceau de chez moi. Quand j'immigre l'été, je passe souvent là. Souvent, j'ai un mouton... ou une vache, ça dépend. Puis là, souvent, je vis l'été ici. Pas ici, mais dans la région.
Mais là, je vous ai vu pendant le poème de Leïla. Non seulement vous appréciez, mais vous étiez comme un poisson dans l'eau, dans la nature. Vous faisiez des petits sauts de cabri dans les herbes. Vous étiez en train de folâtrer avec les chevreuils.
Je serais plus précis en disant plus un sanglier dans l'humus plutôt
pardon.
Que dans l'eau.
Pardon, je peux m'excuser. On va écouter avec Leïla. Viens avec moi, Leïla, là. On va écouter le poème de Jean-Noël. Et tu pourras vraiment dire ce que tu en penses, sauf si c'est du bien. Qu'est-ce que c'est, ce poème?
Ça s'appelle Grain de sable.
Grain de sable par Jean-Noël Mistral.
Grain de sable, que tu es rondouillard, grain de sable. Tu es une pyramide tronquée de pyramides. Oh, ou alors un enfant caillou. Tu es si petit, grain de sable, que tu tiennes debout dans ma poche. Mais où sont tes amis? Où sont tes frères? Es-tu le début d'un désert dans lequel je suis le seul? Je suis seul depuis si longtemps. Mais tu pleures, tant tu supportes avec courage ton destin de silice. Tu as échappé aux informaticiens immondes qui obligent tes frères à projeter dans les ordinateurs des images de femmes dévêtues qui transpirent. Viens-tu de l'ombre de l'autre bout de la Méditerranée? Ou viens-tu du désert de Syrie? As-tu échappé à la guerre, grain de sable? Où étais-tu au pied d'une princesse perse, au nombril percé de la pilasse d'Ulysse de plusieurs kilos chacun? As-tu traversé des canyons ou des volcans espagnols? Là, c'est pour que ça rime.
Ah oui, c'est bien.
Pour que ça rime. Oui, ou étais-tu dans l'œil d'un tigre du Bengale? Ou chevauchais-tu le dos d'une oie sauvage de Basse-Égypte volant de profil? Bon, je suis pas sûr, ça. Tu ne me réponds pas, grain de sable. Je sais, tu es tout ce qui reste peut-être d'une montagne et tu cherches tes amis, c'est ça? Je t'aime bien, grain de sable, parce que tu es parti à l'aventure. Tu as bien avancé maintenant et je te repose. Continue ton chemin, continue ta route, va. Et peut-être vas-tu un jour dérégler la pendule du temps des gens de la ville qui s'échignent à tenter de détruire ce que... J'ai pas la fin.
C'est beau, hein? C'est vraiment le mot qui vient, Leïla.
C'était très joli, c'est original. Voilà.
Oui, c'est pas le poème de tout le monde. Hein.
Original dans le sens différent ou dans le sens original
dans le sens...
Oui, ça va, écoute, on vous dit original non plus. Prenez, hein. Voilà. On laisse Jean-Noël retourner dans la nature parce qu'il est... Il est temps de retrouver... merci Leïla, on te laisse toi aussi aller à l'école. Chacun une destination, c'est un des miracles de l'émission. Et c'est le journal de Thierry Parem, Fessine Armel. À tout de suite, à vous Paris.
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2018 entrera finalement en application le 1er janvier 2019. C'est une annonce du Premier ministre dans les colonnes du Parisien ce matin. Édouard Philippe qui annonce aussi que le gouvernement va évaluer la réforme du tiers payant généralisé qui a été mise en place sous le quinquennat précédent. La réforme du Code du travail, on en parle beaucoup, elle sera bouclée avant la fin de l'été. Enfin, en tout cas, c'est le souhait du gouvernement. Le projet de loi d'habilitation pour légiférer par ordonnance sera à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 28 juin avant d'être voté durant l'été par le Parlement et publié avant le 21 septembre. Parmi les axes de travail gouvernemental, l'État entend repenser l'articulation entre l'accord d'entreprise et accord de branche. Concernant la réforme de l'assurance chômage, elle sera progressivement mise en œuvre à compter de l'été 2018 et sera ouverte aux indépendants et aux salariés démissionnaires. Il y aura aussi une réforme des retraites, enfin du moins une réforme des retraites devrait être discutée au moins à l'automne 2018. L'homme qui a attaqué un policier sur le parvis de Notre-Dame est étudiant en sciences de l'information. Son directeur de thèse ne s'explique pas, son geste fou. D'ailleurs, l'enquête se concentre sur le profil surprenant de cet assaillant qui a revendiqué être, je cite, un soldat du califat, terme utilisé pour désigner le territoire revendiqué par Daesh. L'assaillant, muni d'un marteau, a touché un fonctionnaire de police au cou en criant « c'est pour la Syrie ». Ce dernier, ce fonctionnaire, n'a pas été blessé grièvement. Il a été légèrement blessé. La police londonienne a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Xavier Thomas, un Français de 45 ans, porté disparu depuis l'attentat perpétré dans le centre de Londres samedi. Attentat qui a fait, je vous le rappelle, 7 morts, dont 2 Français. Et une nouvelle victime a été identifiée grâce aux analyses ADN et il s'agit d'un ressortissant français. Alors que la bataille de Mossoul se poursuit en Irak, des combattants arabes et kurdes soutenus par les États-Unis sont entrés hier dans la ville de Raqqa en Syrie, bastion de l'organisation État islamique que la coalition tente de reprendre depuis maintenant des mois. Une vidéo amateur d'un jeune cavalier se promenant dimanche dans les rues de la ville de Montreuil, en région parisienne, a été vue plus de 640 000 fois en 24 heures sur Facebook. Le journal Le Parisien a retrouvé sa trace, il s'agit de Gamar Camara. C'est un rappeur donc de Montreuil, passionné par les chevaux, au point d'en acheter un. Alors à ceux qui se demandent s'il est dans son bon droit, eh bien sachez que votre ville n'a pris aucun arrêté en la matière, ce qui est généralement le cas, eh bien vous pouvez circuler à cheval et la règle qui s'applique à vous est celle des cyclistes. Vous êtes considéré comme un cycliste. Les suites de Roland Garros, c'est terminé pour Kristina Mladenovic. La Française qui a réussi à se hisser en quart de finale a été battue hier par la Suissesse Timea Bagzinski. Le score 6-4-6-4. Aujourd'hui, Caroline Garcia tentera de faire mieux face à la numéro 3 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova. Et puis, champion olympique du 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Rio, l'Australien Kyle Chalmers, 18 ans, a été opéré du cœur avec succès. Il espère faire son retour aux Jeux du Commonwealth l'année prochaine.
Merci Thierry Paré. Retour ici dans la Drôme Provençale avec sur le marché de Nyons, notre ami Jacques Souvent.
Oui, alors là, on voit vraiment que ça commence à se réveiller. Là, en face de moi, il y a quelqu'un qui arrive avec un diabolo, un jongleur, quoi.
Avec, attendez, je vais changer de casque.
Un petit diabolo.
Très, très gros souci technique.
Ah bon ? Je sais pas. Oui, Jack, montez sur la mobilette.
Jack, ça y est, excusez-moi, vous étiez avec qui ?
Avec plein de monde, là. En fait, je suis à côté de la petite fontaine. Là-bas, on va aller les voir tout à l'heure, il y a Léa et Audrey qui sont en train de finir leur devoir sur un petit mur de pierre à côté d'une fontaine. Ah, il y a des lauriers en fleurs. Là, je suis autour d'une table avec des lycéens. C'était quoi ton prénom déjà ?
Axel.
Axel, avec Axel, vous avez commandé des cafés ?
C'est ça, on a commandé un bon petit café.
Il arrive avec son plateau. Là-bas, il y a des retraités qui commencent à jouer aux cartes. Et puis, c'est le café des palmiers. Il y a une agence.
Donc, Axel prend l'habitude d'aller au café déjà au lycée. Il prend l'habitude du...
Il faut prendre l'habitude, les bonnes habitudes, et très vite.
Axel, là, moi, je trouve c'est une dépense. Si tu veux, je viens de calculer là sur le mois, parce que si tu prenais le café à la maison par rapport au jour de classe, il y a 5 jours ouvrables par semaine, multiplié par 4, ça fait 20. Il y a 20 cafés. Le café, j'ai vu ici, il est au comptoir à 1,30 à peu près. Assis, il est à combien le café ?
Bon, j'en ai absolument aucune idée.
Oui, mais alors là, je trouve que cet argent, je pense que tu devrais le garder pour les vacances d'été.
Les vacances d'été, mais... J'ai mon argent toutes les semaines, je dépense mon argent. Voilà, on prend un café, j'amène les amis, la copine, on profite. Il fait beau, Nyons, on aime le pays, donc...
Comment tu gagnes ton argent alors, Axel, en dehors des cours?
Ben, j'ai une carte de retrait, donc avec mes parents qui me donnent de l'argent.
Voilà, j'ai cru que tu avais une carte de retraite, j'étais sur le cul. Alors là, tu as cours, tu es en quelle classe là?
Je suis en seconde générale.
Seconde générale, donc là, il y a ta copine, il y a tout le monde?
Voilà, c'est ça.
Elle est dans ta classe, ta copine, ou pas?
Ok, dans... ok.
Allô? Question oui, intime, est-ce que tu sors avec une fille de ta classe, Axel?
Non.
C'est mieux, parce que c'est comme sortir avec une collègue de bureau, c'est crevant de se voir toute la journée, quoi.
C'est ça, exactement, il ne faut pas mélanger vie professionnelle et travail.
et vie privée. Donc c'est quoi les avantages? Qu'est-ce que tu aimes bien? Dis-moi les plus et les moins d'être lycéen à Nyons.
Alors, les plus, c'est qu'on a quand même un beau panorama, quoi. On se développe dans une ville qui est très jolie, des alentours qui sont quand même propices à des sorties culturelles. Et puis quand même, il y a des avantages, puisqu'on est quand même tenté pour aller à la rivière, sortir, ne pas aller en cours. Après, voilà.
Qu'est-ce qui craint à Nyons? Qu'est-ce qui t'énerve?
Qu'est-ce qui m'énerve à Nyons?
Ou en général?
En général, pas grand-chose.
C'est vrai?
Pas grand-chose. Non, moi, je profite, j'aime bien. Voilà, j'ai mon ami qui fait du diabolo juste là, on profite, la journée est belle.
Par exemple, les enfants qu'on bouscule.
Oui, Arnaud?
Les enfants qu'on bouscule, c'est quand même énervant, ça, non?
Il y a eu des bousculades récemment?
Des bousculades récemment. Je vous avoue que je ne fais pas attention aux bousculades.
Mais tu te mets bien en colère, Axel. Qu'est-ce qui te met en colère dans la vie? Quand est-ce que tu commences à perdre ton sang-froid?
Quand est-ce que je commence à perdre mon sang-froid? Ben, je perds mon sang-froid quand on parle mal à ma copine, quand on me parle mal, quand on est violent avec moi. Enfin voilà, comme tout le monde, je pense.
Par exemple, te parler mal, ça commence à quelle phrase à peu près? Quel genre de phrase
Quel genre de phrase? Ben, les insultes sur la famille, après, quand ça devient personnel, c'est moins important.
Ah oui, ça, c'est... Bah, famille, ça, voilà. Oui, là, ça devient... C'est pas tout de suite, ça. Il y a quand même un crescendo, il y a une escalade, ça n'arrive pas tout de suite. Donc là, 8h08, le café, le lycée, moi, ça me va. Arnaud, une dernière question pour Axel?
Cette question, c'est... toi, tu vois quoi au niveau de l'avenir?
Au niveau de l'avenir, bah, en fait, moi, l'année prochaine, je prévois d'aller... Donc, mes tests à l'armée, tout ça.
Non, pas cet avenir-là, mais l'avenir de...
Du monde?
Du monde.
L'avenir du monde, eh ben, on va. Pour moi, on va droit au mur si on continue comme ça.
D'accord.
Alors justement, non.
Mais en même temps, on touchera le mur, on pourra peut-être l'escalader ou.
Escalader le mur, propose un Noéma, ou peut-être ouvrir une porte dans le mur ou faire pousser de la mousse sur le mur afin que les coups soient moins, que le choc soit moins peut-être.
Elles sont parties. Allez.
Ben, je comprends, j'en aurais fait autant, moi je serais parti.
Parce que, mur, moi j'étais dans la transition, j'allais sur le petit muret des devoirs de Audrey et Lilou, mais elles sont parties.
Et elles sont parties, Audrey Lilou?
Oui,
elles sont parties. J'allais pas me passer des mecs toute la matinée qui avaient deux nanas sur un mur.
Ça, c'est la fontaine.
T'es con ou quoi?
Non, mais je peux trouver quelqu'un très rapidement. Hein.
Je pense que si, dans quelques jours, vous serez vraiment une personnalité du marché de Nyons.
Ouais. Bonjour. Bonjour. Il y a à peu près 250 tables à essuyer, là.
Non, il y a 50.
50. Ah, bon, alors.
À tout à l'heure, parce qu'on est avec Thibaut Champfort, qui est vigneron. Il doit aller un petit peu travailler dans ses vignes. Je ne peux pas les garder éternellement à coup de café.
Je le connais, Thibaut. Bonjour, Thibaut.
Comment tu le connais, Thibaut?
Je l'ai croisé dans les vignes. Les vignerons, on se croise.
Bon, à tout à l'heure, Jacques Souvent. À mon avis, vous avez
ça va pas bien.
À tout à l'heure. Salut.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2h d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Du vin, encore du vin, c'est le programme ce matin. Très souvent, les émissions du matin occultent le vin qui dessine nos cœurs, nos âmes et nos paysages aussi. Bonjour Thibaut Champfort.
Bonjour à tous.
Thibaut Champfort, vous êtes au cœur des dentelles de Montmirail, ce paysage unique au monde. Pourquoi est-ce que ça s'appelle des dentelles? Parce que c'est vraiment la montagne.
Ouais, c'est de la roche calcaire qui est très ciselée, qui est... Alors après l'origine exacte, je sais pas, mais
donc les vignes poussent dans le caillou, dans le calcaire,
c'est ce qui fait notre terroir qui est voilà Ça fait un style de vin assez particulier.
Ouais. Donc c'est des cèpes solides, quoi. Ils ont envie d'être là.
Ah, ils sont bien costauds chez nous.
S'ils sont là, c'est pas par hasard. Ça s'appelle le domaine de Verquières.
C'est ça.
Tout le monde m'a dit dans la région. Alors je cherchais des vignerons. On m'a dit, vois d'abord. Vois Thibaut Chamfort, pourquoi est-ce qu'on m'a dit ça, Thibaut ?
Ah, écoutez, les secrets, on ne va pas tout dévoiler. Mais...
Alors, comment on peut parler de vin à la radio ? Qu'est-ce qui vous passionne, vous ? C'est déjà vos parents étaient viticulteurs.
Voilà, moi, je suis la quatrième génération sur le domaine.
C'est pas bizarre, parce qu'à la fois, on se dit, on est fiers de prendre ce que font ses parents, puis on a envie de s'exprimer soi aussi.
Ah ben, ouais, bien sûr. Alors, on commence avec, on suit les traces un peu des parents, des grands-parents. Et puis après, on veut apporter sa touche, quoi, sa patte. Donc.
Et c'est quoi, comment, ça serait quoi votre patte, Thibaut ?
Ah, ben, je sais pas.
Est-ce qu'on peut parler de soi-même ?
C'est compliqué, surtout. Non, c'est très compliqué pour moi. Donc, non, mais après, c'est au fil des années, au fil des expériences. J'ai pu travailler, j'ai eu la chance dans ce métier aussi, c'est pouvoir découvrir plusieurs pays. Je suis allé en Californie, en Afrique du Sud, pour découvrir un peu les vins, pour découvrir un peu les gens, les histoires, voilà.
Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est vrai, bon, c'est être un lieu commun, mais c'est vrai, c'est toujours des histoires incroyables.
Ah ben, c'est la rencontre, c'est les partages, c'est l'échange, c'est ce qui est magnifique dans notre métier, c'est que, voilà, on fait des dégustations, on découvre des vins, voilà. Et puis, souvent, on finit, ouais, comme ça. Ben,
moi, ça me frappe, ce truc-là, de travailler, ce truc d'être la quatrième génération, je trouve ça un peu écrasant, toujours, non ? Il y a pas...
Ah, c'est un poids, hein. Ça peut être un poids, ça peut être...
Mais est-ce que vous êtes arrivé déjà d'arriver avec une nouvelle recette, par exemple, de vin ? Et votre père a dit n'importe quoi. Ah, ben, et en sûr. Fait, ça a marché.
Bien sûr, ouais, bien sûr. Au début, c'est... Après, on a du mal à lâcher un peu le bébé et tout ça, parce que on a travaillé, mon père. Je parle de l'exemple de mon père. Il a travaillé toute sa vie dedans. Et au moment de passer le domaine, bon, après.
C'est n'importe quoi. C'est...
Voilà. Bah, quand on est passé bio, déjà, voilà.
Oui, parce qu'autant on a envie que ses enfants, j'imagine, reprennent, autant on a envie qu'ils fassent mieux, puis en même temps, on n'a pas envie de décrocher complètement. C'est compliqué. Ouais, hein.
C'est pas facile. Hein.
Parce que c'est souvent idéalisé à l'extérieur.
Bah, c'est toute une vie. Hein, ouais. C'est toute une vie. On passe notre vie dedans et tout. Et de lâcher un peu. Là.
Alors, que, ça veut dire quoi passer en bio, Thibaut Chamfort ?
Nous, on est en agriculture biologique. Donc, je ne fais pas des vins naturels, mais je fais de l'agriculture biologique.
Alors, on embrouille toujours tout. Alors, redites
alors,
un peu.
Agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on ne met pas de produits chimiques, on ne met pas de désherbants, on ne met pas de produits toxiques sur la terre.
Voilà, la terre, elle respire. Oui,
voilà, exactement. On travaille nos sols, on ne met pas n'importe quoi dans nos vignes. Quoi.
Mais vous, quand même, vous travaillez après, quand vous vinifiez, vous mettez un peu de soufre.
Il y a toujours un peu de soufre. Toujours. Même naturellement, dans le vin, il y a un peu de soufre. Mais on en rajoute très, très peu à la mise en bouteille pour conserver le vin. C'est pour ça que je ne fais pas des vins nature, parce que les vins nature, bon, c'est assez particulier. Quoi. Non, mais c'est bien incarné et tout, mais voilà. Moi, je préfère rester dans l'agriculture biologique et faire du vin avec un minimum vraiment de soufre.
Là, il est 8h20. Normalement, vous êtes où à 8h20 en juin ?
On boit un coup, hein, on boit du blanc. Hein.
Non, mais là, c'est la saison de quoi ? Parce que donc, septembre, il y a les vendanges. Là, vous êtes en train d'étudier, vous commencez à regarder.
Là, c'est une grosse saison dans les vignes. Là, c'est tout se joue mai, juin, juillet. C'est le plus gros travail dans les vignes. C'est maintenant qui se fait. Voilà, c'est.
Pourquoi là le raisin est sorti là ?
Là le raisin est sorti, la fleur est passée, donc la grappe commence à se transformer, l'herbe pousse dans les vignes, donc c'est ce qu'il faut enlever. Il faut enlever tout ce qui pousse en trop sur la souche pour limiter le rendement. Il faut tailler un peu la vigne pour pas qu'elle pousse de trop. Voilà.
À partir du quand on commence à s'inquiéter, on dit oh là là, si toi coup si ça gèle ou si y a un orage, je suis foutu.
Très tôt dans la saison.
C'est très tôt.
Très tôt. Ouais. Ben, d'ailleurs ici sur Nyons, Vensorbe, tout ça, ils ont pris le gel, la grêle. Ouais, ça fait pas mal de mal. Ouais.
Et les vendanges chez vous, c'est quand ?
Bon, on va dire vers le 10 septembre, ça commence.
Il y a des saisonniers ?
Toujours, ouais, bien sûr.
C'est mixte ?
C'est beaucoup de pays étrangers quand même.
Des hommes, des femmes ?
Ouais, bien sûr. Ouais,
il y a des bonnes ambiances ?
On essaye.
Il y a des guitares ?
Ça se fait un peu moins le folklore quand même, comme avant.
On va venir avec
mais voilà, c'est à nous de créer l'ambiance et tout aussi sur au moment des vendanges. Ouais.
Ça s'appelle le domaine de Verquières. Vous n'êtes pas très vieux, vous, Thibaut Chamfort, vous avez quel âge ?
Je sais pas, j'ai 39 ans.
Vous m'avez dit que c'était hier soir.
Ouais, j'ai fêté mon anniversaire hier.
Eh bien, ça ne s'entend pas. Moi, je l'aurais fêté hier soir, j'aurais trouvé une raison ce matin pour rester au lit. Merci beaucoup, Thibaut Chamfort.
Merci à vous.
On vous laisse
plaisir.
Retourner Merci. Dans les dentelles de Montmirail.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h,
Édouard Baird, 7h, 9h, oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
L'invité de 8h26, tout de suite avec moi. Nicolas Sarkozy, bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez prendre la voix que vous voulez, Nicolas.
Oui, je veux dire... Non.
Non, mais Nicolas, normal. Oui, Nicolas, vous êtes un peu spectateur de la politique, là.
En fait, je prends un peu de temps pour regarder un petit peu ce
qui se
passe.
Prenez du temps pour vous.
Oui, je prends du temps pour moi, je vais au tennis, je fais du squash.
Tennis de table aussi.
Tennis de table, oui. Tennis de toute table.
Je note de ne pas faire ce sketch. Ne bougez pas une seconde.
Notez-le parce que
on
ne l'avait pas prévu.
De Nicolas Sarkozy. Attention, l'invité de 8h27, sketch. Bonjour, Bernard Bucaille, bonjour.
Bonjour.
Bernard Bucaille, vous êtes l'inventeur du champignon.
Oui, c'est moi qui ai inventé le champignon en 1927.
Voilà, avant vous, il n'y avait aucun champignon.
Non.
Et à partir de 1927, sont apparus les cèpes, la girole, c'est vous aussi.
C'est moi, la girole. La girole, c'est moi.
La girole, c'est vous.
Ouais.
La trompette de la mort, c'est vous.
La trompette de la mort, c'est ma femme, mais finalement, je l'ai mis à mon nom.
Pourquoi cet intitulé inquiétant, trompette de la mort?
Je trouvais ça sympa, je trouve.
Bah, demandez à votre femme si c'est pas vous.
Ah oui.
Bah attendez,
chérie,
j'ai un truc sur ce sketch. Attendez.
Oui, bah disons que je trouve que à un moment donné, il fallait donner un côté un peu négatif aux champignons.
L'inventeur du champignon, ne pas le faire.
Pour attirer les gothiques, pour avoir aussi les romantiques qui mangent des champignons.
Ah oui, d'accord. Gardez ce truc-là. Voilà, pardon, j'ai noté un truc sur ce sketch, on ne le fera pas plus. L'invité de presque 8h28. Hola, ¿qué tal? Interview tout en espagnol de 8h28.
Muchas gracias.
Qué guapo.
Qué guapo, señor.
Qué guapo esta mañana.
Esta mañana, una cerveza para mala...
Sí, pero la vida es un sueño.
Le truc, c'est que je ne parle pas un mot d'espagnol.
Je ne comprends pas ce que je ne comprends pas, Arnaud.
Ouais.
Il y a plein de gens qui voudraient s'exprimer aujourd'hui, qui n'ont pas de micro, qui n'ont pas la parole.
Il y a des gens qui n'ont pas de bouche.
Non, mais ceux-là, je ne peux pas faire m'occuper de tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas de micro, qui aimeraient... Vous avez accès au micro, vous avez accès à une antenne. Là, il y a peut-être des gens qui écoutent. Et qu'est-ce que vous en faites?
Rien, pas. C'est vrai que pas grand-chose.
Quel message passe aujourd'hui? Quel chant d'espoir? Quel cri dans la nuit?
J'imaginais que par rapport au ton, même si au niveau du sens, ce n'est pas très intéressant ce que je raconte, peut-être je me disais au niveau de l'affection, de l'émotion que
non,
je dégage.
Non, ça c'est vrai. Il y a une
peut-être
très belle
émotion. Une douceur qui arrive et peut-être qui apaise les gens de façon hypnotique.
Chantage affectif. Manipulation. Essayez de vous faire de la peine, de vous tendre le moignon de nos âmes.
Tout à fait.
Essayez de vous donner la sébile de nos bouches, avides de reconnaissance. Nos yeux larmoyants de petits chevreaux courant dans la nature et jamais devenus de grands veaux, ou si oui, directement à l'abattoir. Nous sommes là, dans cette salle à manger de la région de Nyon, en sous-location, sans doute pas déclarée. Moi, pour un tournage de cinématographe qui aura lieu tout à l'heure, où je vais rejoindre l'équipe de Pierre Godot pour le film Raoul Taburin. Arnaud, qui a eu la gentillesse de venir et qui se fait engueuler. Armel M, les doigts dans la mécanique et autour de ça, des gens, des enfants, des rires. Des animaux, un viticulteur qui repartit dans ses vignes en stop. Comment ça va, vous, ce matin? Nous, pas si mal. Underwear. Slip ou encore, continuez à voter sur notre site, bien sûr, slip ou encore. Pour le moment, 92% de On veut le journal de Thierry Paret, 8h31. Radio Nova.
Un acte isolé, perpétré par un homme pas du tout marqué par la radicalisation. Propos signé du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui réagissait à l'attaque de Notre-Dame hier à Paris. L'assaillant qui a frappé un policier au cou avec un marteau sur le parvis devant la cathédrale se trouve désormais dans un état stable. Il a été blessé au thorax, grièvement, par un policier après son attaque. L'enquête se concentre sur le profil surprenant de cet assaillant qui a revendiqué être, je cite, un soldat du califat, terme utilisé pour désigner le territoire revendiqué par Daesh. Cette mort, dont deux Français, la police britannique a identifié une nouvelle victime de l'attentat de Londres, un ressortissant français donc. La police britannique a aussi lancé par ailleurs un appel à témoins pour tenter de retrouver Xavier Thomas, un français, un autre de 45 ans, porté disparu depuis cet attentat. La bataille de Raqqa est peut-être entrée dans une phase décisive. Des combattants arabes et kurdes soutenus par les États-Unis sont entrés hier dans la ville syrienne, bastion de l'organisation État islamique, que la coalition tente de reprendre depuis des mois. Les combattants sont passés par l'est de la ville. Je précise cela parce que le peu de résistance rencontrée fait penser que les combattants djihadistes ont établi leur principale ligne de défense à l'intérieur de la ville. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui devait entrer en application le 1er janvier 2018 entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2019, annonce du Premier ministre dans les colonnes du Parisien ce matin. Édouard Philippe qui annonce aussi que le gouvernement va évaluer la réforme du tiers payant généralisé qui a été mise en place sous le quinquennat précédent. La réforme du Code du travail sera bouclée avant la fin de l'été. C'est le souhait du gouvernement en tout cas. Le projet de loi d'habilitation pour légiférer par ordonnance sera à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 28 juin avant d'être voté durant l'été par le Parlement et publié avant le 21 septembre parmi les axes de travail gouvernemental. L'État entend repenser l'articulation entre accords d'entreprise et accords de branche. Concernant la réforme de l'assurance chômage, elle sera progressivement mise en œuvre à compter de l'été 2018 et sera ouverte aux indépendants et aux salariés démissionnaires. Enfin, une réforme des retraites devrait être discutée à l'automne 2018. Paris va expérimenter l'an prochain des types de bitume qui peuvent à la fois atténuer le bruit de la circulation routière et permettre de rafraîchir l'air. Ça va commencer par le 14e arrondissement de Paris. Les suites de Roland-Garros, et c'est fini pour Kristina Mladenovic. La Française qui a réussi à se hisser en quart de finale du tournoi a été battue hier par la Suissesse Timea Bagzinski, le score 6-4, 6-4. Aujourd'hui, Caroline Garcia tentera de faire mieux face à la numéro 3 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova. Et puis, on n'en a pas parlé, mais la Coupe du Monde de fléchettes s'est déroulée le week-end dernier à Francfort, en Allemagne, dans un palais des sports archi-comble, et les Pays-Bas ont battu le Pays de Galles 3-1.
Thierry, vous avez dit assez justement, on n'en a pas parlé, mais je crois que c'était vrai. Exprès qu'on n'en avait pas parlé.
Ah, c'est ça, voilà.
C'était, je pense que le niveau de gens qui s'en foutaient était fort, et c'est dommage.
Je pense qu'ils ont tort, c'est important les fléchettes.
Enfin, c'est important pour ceux qui le pratiquent, évidemment, mais on ne voit pas assez de fléchettes à la télévision.
C'est ça.
Et si jamais, ce qui est formidable, c'est les programmes de billard. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le championnat de billard.
C'est impressionnant.
C'est complètement hypnotisant. Et je crois que c'est un signe à vos coureurs d'un goût pour la retraite, de s'installer chez soi devant, comme un feu de bois, devant un bon match de billard à la télévision.
Et de mourir.
Merci Arnaud Aymar pour cet apport. On rejoint sur le marché de Nyons, dans la Drôme, on rejoint notre camarade Souvent. Là, il y a une vraie démission de Jacques Souvent au niveau sonore. Je ne sais pas si vous êtes comme moi chez vous, je n'entends pas Jacques Souvent. Jack ? Peut-être qu'il faut dire Jack comme dans Jack Lang, ça le fait venir. Jacques Souvent ? Ah, Jacques, on vous entend là.
Salut, c'est Jacques Souvent.
Non, ça ne marche pas. Bon, on va être obligé, si vous ne prenez pas la parole, je vais être obligé de passer de la publicité. Ouais. Ce n'est pas que ça me fasse plus plaisir que ça. On va encore se faire engueuler de dire que c'est de notre faute. Bon, publicité, peut-être un peu de Souvent après. Bah, ça... Alors, il est où notre Jack ? Il est où, là ? Où qu'est-il ?
J'espère que ça marche.
Ah bah là, ça marche, Jack, oui.
Ah bah voilà, c'est des petites micro-coupures du réseau, en fait.
Oh, il y a toujours des raisons pour échouer, ça y en a. Hein. Bon, vous êtes toujours à Nyons, il y a du monde, ouais, là ?
Ah oui, là, ça commence vraiment à... Voilà. Le soleil a percé sur la... En fait, ce que je remarquais, c'est que les places publiques, là, c'est un parking, en fait, la place. C'est étonnant, c'est là que j'ai rencontré Evelyne. Ils sont compliqués dans le...
Un bon rodateur.
Hein, mais dans la voiture.
Personne disciplinée.
Dans la voiture. Oui, dans la voiture. Et je vous ai posé la question, vous allez travailler ? Vous m'avez dit oui. Et j'ai demandé le ticket, vous l'avez mis...
Une heure. Donc en fin de compte, je travaille une heure et je suis payé 8. C'est pas mal, hein ?
Ah, c'est très bien, ça.
Mais c'est ça, le Sud, hein ? Tranquille, tranquille.
Voilà, on est avec Evelyne.
Donc Evelyne, oui.
On ne sait pas si ça marche, si ça marche pas.
Si, si.
Ça marche.
Elle va faire quoi, Evelyne ?
Evelyne.
Evelyne. Et vous ? Vous faites quoi ?
Ben moi, je suis là, je suis assis. Je voulais savoir un peu ce que vous faisiez. Pour le moment, nous, on est assis là. On parle un petit peu. Puis après, on va tourner un film à Ventrolles, là.
Oui.
Et donc, alors, vous allez être payé une heure pour 8, mais les 7 autres, vous allez en faire quoi ?
Eh bien, écoutez, je vais aller voir le tournage du film.
Ah bah venez si vous voulez à Ventrolles, mais hein, c'est parfois décevant parce qu'on voit juste des gens tenir des perches, un type qui tient un pare-soleil, un type qui dit moteur action, je ne sais pas si c'est... Vaut mieux voir le film
très
que le tournage.
Exactement.
Je ne voudrais pas vous décevoir, j'aimerais vous proposer du rêve, Evelyne. Et là, cet rodateur, vous en êtes contente ?
Mais vous faites une fixette sur le rodateur ou quoi ?
Non, parce que j'ai le dictionnaire des questions à chier là qu'on m'a remis.
Vous
des questions les plus ennuyeuses de France. Je vous propose celle-là. Vous me dites, j'en ai d'autres des questions ennuyeuses. Dis donc, quelle belle journée. Vous pensez que ça va continuer ?
Vous avez bien j'espère.
Dormi. Dis donc, le pain là, il est à qui ?
Le quoi ?
On peut même s'arrêter à le pain. Et dis donc, le pain.
Alors ça, c'est des questions ouvertes, c'est des questions. Evelyne, quand vos parents vous ont appelé Evelyne, vous étiez à peine née. Non, mais alors, oui. Donc vous étiez, j'imagine, vous sortiez à peine du ventre de votre mère, dit oui, d'accord, Samira comme prénom. Ou vous avez dit, vous avez autre chose. Moi, j'aime bien Evelyne, j'ai connu des Evelyne.
Et alors, que dans... gardez un bon souvenir.
Oui, 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 un souvenir tout à fait gracieux. J'avais connu une Evelyne qui aimait marcher pieds nus. C'est votre cas ?
Non, pas du tout.
Ah oui, donc c'est pas la même. Non, et vous, c'est le Evelyne avec Y et E à la fin ? Vous êtes... Parce qu'il y a 10 points au Scrabble pour le Y.
On n'a pas de renom.
On n'a pas de renom propre, oui. Et...
Ah, les questions hein,
non, mais c'est parce que c'est les... je me suis inscrit à l'école française de journalisme et puis bon, j'attends ma réponse. Et dites-moi, donc une fois que vous allez récupérer votre voiture, vous allez la mettre où après ? Allô ?
Mais vous faites une fixette sur les voitures, les ordinateurs, vous travaillez pour un conseiller de voiture, concessionnaire de voiture ou quoi ?
Non, je sais pas. Ça m'est venu comme ça parce que j'ai pensé à cette voiture sur ce parking. J'ai pensé à la possibilité que le rodateur soit dépassé. Je me suis dit à 1h01, 1h02, y a-t-il sur Nyons aussi des membres de la police municipale ou nationale
qui
risqueraient de verbaliser ?
Dans une heure, si j'ai pas remis le ticket,
ouais.
Forcément, ils vont m'aligner. Non, c'est pas vrai.
Parce que si vous récupérez votre voiture à 55 minutes, vous perdez 5 minutes de parking, ce qui est con, vu qu'il est réglé. Mais à 1h02, vous risquez l'alignement.
Mais vous savez qu'on ne règle pas les parkings ici. C'est pas comme à Paris, ça ne marche pas par pièce.
Tout ne peut pas toujours être intéressant dans la vie. Il faut accepter ces petits moments, ces petites conversations, ces petites choses. Evelyne et moi, on est dans le parc Maître, on est dans le parking. Merci de nous écouter. C'est l'équivalent d'un feu de bois, d'une partie de championnat de billard à la télévision. Ce sont ces moments qui vous permettent chez vous de vous habiller, de vous doucher, de reconsidérer vos enfants. En choisissant une émission non passion, on vous propose de revenir vers vous, vers l'essentiel de vos vies. C'est un choix. Avec Arnaud Aymar, on aurait pu, évidemment, et
on
aussi avec Evelyne.
On aurait pu être intéressant.
Eh bien, non. Notre générosité à nous, Evelyne, Arnaud et
c'est
moi,
le retour
et Jack souvent.
Soi.
Voilà.
Le retour sur soi, le bouclage.
En proposant du neutre, hein, du presque rien, cette toute petite ligne
un
qui
yaourt
sépare le...
sans fruits.
Un yaourt, un sucre sans sucre, un café décaféiné, de l'eau du robinet.
De l'eau de robinet, mais sans eau.
Sans robinet.
Sans robinet.
Evelyne, un très très gros béco sur vos
lèvres
charnues. Oui, moi aussi. À très bientôt et vérifiez bien cette histoire de Park Med, ça me tourmente. Marie Missé, vous êtes en studio à Paris, vous
oui.
avez une invitée formidable.
Formidable, c'est le mot. Il s'agit de l'Adona Brave Bull Allard qui est avec nous, qui nous a rejoint Edouard en studio. Est-ce que tu veux que je me charge de la présentation ? Est-ce que tu veux en parler
Absolument, raconte-nous tout, je vous laisse toutes les deux.
Alors l'Adona Brave Bull Allard, elle est de la tribu Sioux de Standing Rock. Standing Rock, c'est là où a eu lieu ces dernières années le plus grand combat mené par les Amérindiens depuis un bout de temps. Ils luttaient contre la construction d'un oléoduc qui non seulement passait par leur terre sacrée, mais qui en plus promettait de fuir. D'ailleurs, il me semble que les premiers essais de cet oléoduc fuient déjà. Ça contaminera l'eau, les terres de cette réserve. Alors, l'Adona Brave Bull Allard, c'est la femme qui a commencé le combat en lançant l'occupation, la toute première occupation du terrain à The Sacred Stone Camp. C'est comme ça que ça s'appelle. C'était en avril 2017. Ils étaient 5-6 au début. Ils ont été rejoints par des milliers de personnes. Benjamin, qui est avec nous, qui est photographe, qui est à Standing Rock depuis un bout de temps maintenant, peut me corriger si je dis des erreurs.
Avril 2016.
J'ai dit 2017, pardon, évidemment. Elle a vu ses filles brutalisées, elle a enduré les canons à eau, les gaz lacrymaux, les attaques de chiens, les bulldozers. Bref, elle est aujourd'hui là pour en témoigner. Le combat à Standing Rock, il est un petit peu terminé, parce qu'après avoir été stoppé par Obama, Trump, qui en est aussi un des actionnaires via une de ses entreprises, a relancé le projet. On va aussi en parler avec elle. Hello, LaDonna. We're really, really honored to have you this morning with us. On est très honorés de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est-ce que tout ça a commencé? Can you remind us how it all began? Because I've heard you're not an activist. You were not an activist. Vous disiez tout le temps avant que vous n'étiez pas une activiste et pourtant c'est vous qui avez commencé tout ça.
So, Ihana Washte. My real name is Tamaka Washtewi, her good earth woman. I'm enrolled member of Standing Rock Sioux Tribe and I'm a historian and genealogist by trade. I do historic tours, historic backgrounds for my nation, the Standing Rock Sioux Tribe. And so this is what I have always done. So April 1st of 2016, we started a camp because I had found out they were building a pipeline across from my home and across from where my son is buried.
Madame, on va traduire au fur et à mesure. Et qui suit l'aventure depuis le début va traduire la Donna.
Alors donc la Donna au départ était une historienne spécialisée dans l'histoire de Standing Rock et donc elle dit qu'en avril 2016 elle a appris l'existence du pipeline et elle a démarré le premier camp parce que l'oléoduc devait passer sur la tombe de son fils et de d'autres tombes sacrées pour sa tribu des Sioux de Standing Rock et c'est là que tout a commencé donc en avril l'année dernière.
So, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à Standing Rock? Je sais que Trump a relancé la pipeline, que le camp a été démantelé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? What's happening?
Les images ont fait le tour du monde, oui.
Right now in Standing Rock, I know that the camp has been like shut down, that Trump relaunched the project. What's going up now?
So in March of this year, the Standing Rock Sioux tribe had the camp shut down. So when we sat down and discussed, we said we stand in prayer. We will remove our belongings and leave in prayer. And so since then, the camps have spread all over the United States and the world. And we have sacred stone people all over in these camps as we are standing up to protect the water across the world now. Right now, in this moment in time, we have our large program, which is divest from any banks that finance fossil fuel. We are at $38 billion that we have divested and individual families.
Oui, donc ils ont été obligés de fermer le camp l'hiver dernier, au mois de décembre, mais que depuis, il y a plus de 200 camps qui ont ouvert à travers les États-Unis et dans le monde pour continuer la protestation. Et essentiellement, aujourd'hui, la protestation, c'est d'empêcher les financements. Et ils ont réussi à divest, à empêcher presque 38 milliards de dollars d'être investis dans ce pipeline. Et un peu leur seule solution aujourd'hui, ce serait justement qu'il n'y ait plus de financement, que le pipeline devienne bankrupt,
fasse faillite.
C'est un peu leur combat.
Alors, oui.
And, c'est aussi le signal, vous avez lancé quelque chose d'extraordinaire que vous attendiez pas vous-même, ce nouveau mouvement qui a réuni non seulement les natifs américains, mais des tribus du monde entier qui vous ont rejoint sur Standing Rock. It was incredible, this movement you launched with tribes from all over the world that just joined you. Were you surprised of how it became huge? Est-ce que vous avez été surprise de l'ampleur que ça a pris?
When we first started the camp, it was 10 to 15 people. In July, I sat down and made a live stream asking people to come help. I remember at that time I was talking to Puya Case from Hawaii, and she said, LaDonna, how many people do you want to come? I said, I would be so happy if 50 people could come and stand with me. I had no idea. Our highest number was 15,000 people on the ground.
Donc au début juillet, lorsqu'elle a fait un appel pour que les gens viennent les aider à Standing Rock, elle rêvait qu'il y ait une cinquantaine de personnes. Et puis je crois que son vœu avait été vraiment exaucé, puisque au plus haut de la protestation, ils ont été 15 000. 15 000, il faut imaginer que c'est dans des prairies où il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de facilité, il n'y a pas d'eau, enfin il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'électricité. Donc 15 000 personnes sont venues camper au milieu de nulle part pour affronter la police et toutes les milices privées qui essaient de protéger le pipeline.
On a vu beaucoup d'images là à travers le monde de ces regroupements
With all the tribes that came, it has never happened on American soil. All the tribes from the tip of Argentina to the tip of Canada
to Norwegian Sami, from people from Europe, from Mongolia, il y a aussi eu des gens de Norvège, de Mongolie. Elle est en train de nous dire, c'est la première fois que ça arrive que des tribus d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale se rassemblent au même moment. So, what are you going to do now with this wonderful movement that started? What are you doing? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce mouvement qui a commencé cette première fois? Vous avez réussi à réunir tant de gens qui se parlaient pas forcément avant, qui avaient les mêmes combats, mais sans se parler.
So, what do you do when there's a negative? You must make a positive. So now we are talking to people about how to live green. Everybody in the whole world needs to step up now to save our water. That means that we need to do solar, thermal, and wind energy. And we can do this. As indigenous people, we live with the earth already. Now we need to teach the rest of the world how to do this in a good way. Everybody needs to step up to protect the water.
En tant que peuple indigène, c'est ce qu'elle disait, ils sont habitués, eux, à vivre avec leur terre, avec leur eau, avec, il faut maintenant qu'ils nous apprennent, nous, à faire de même et à changer de mode d'énergie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Benjamin Loiseau?
Moi, je pense, j'étais assez étonné, je crois qu'il y a vraiment, dans la culture amérindienne, on retrouve des textes du 18e, du 19e siècle, où c'était vraiment déjà les premiers écologistes, ils savaient très bien qu'ils avaient un rapport à la terre, où les ressources n'étaient pas inépuisables, et on peut trouver des écrits et des traces de... Voilà, vraiment, c'était les premiers écolos il y a 200 ans, donc ils ont des choses à nous apprendre, et malheureusement, ils avaient raison dans leur prophétie, et voilà, ils ont démarré un mouvement qui les dépasse complètement et qui nous touche. Donc voilà, on va essayer de...
Merci Benjamin, merci madame. Thank you very much for coming this early this morning. Et c'est au festival Willow Green le 10 juin au bois de Vincennes. Vous y participerez pour témoigner de ce grand mouvement qui a réuni autour des Sioux, des gens du monde entier qui se sont aperçus aussi de ces mensonges américains depuis des centaines d'années et de ces territoires qui sont, quand ça nous sert, qu'on traverse comme ça. Mais merci beaucoup.
Thank you. Thanks a lot, Ladonna, and we will see you.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi. Édouard Baer.
Voilà, cette émission touche à sa fin. Et puis, nous a rejoint là, dans cette maison de la Drôme, d'où nous sommes en direct, Ammoniacal, qui était là sur ces chemins de grande randonnée. Bonjour, Ammoniacal. Ah, tu nous fais ton petit générique ?
Mignon, mignon, mignon. Mignon, mignon. Mignon, mignon, mignon. Ammoniacal.
Ammoniacal, tu étais là, tu te baladais sur les chemins, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu étais.
Oui, parce que j'essaye, pour des raisons professionnelles, de trouver une voie. Et je me disais que peut-être je pourrais devenir sainte.
Sainte, et non, oui.
Pour atteindre la sainteté, c'est pour ça que je cherche une manière de vie originale qu'aucune sainte n'a encore vraiment utilisée, comme vivre dans une poêle téfale ou manger sans les dents.
Ta vie terrestre n'a pas été très heureuse, Ammoniacal, puisque je rappelle que ton apparence t'a éloigné des hommes. Rappelons cette apparence.
Je suis moitié pingouin, moitié pingouin, moitié homme, moitié chiffon.
Trois moitiés pour une seule personne. Mmh. Et très souvent, je voyais sur les chemins les enfants te jeter des pierres.
Oui, pour me féliciter, je pense, pour me donner des pierres, pour je ne sais pas pourquoi. Et ils étaient tellement généreux dans leur lancement que à chaque fois, j'avais des hématomes. Mais des hématomes de bonheur, parce que je sais pas.
Oui, c'est bien. Aspirer à la sainteté, ammoniacale, évidemment, nous tous, nous espérons y arriver. Qu'est-ce que tu nous conseillerais à nous autres gens de corps plus classiques ?
De laisser, de pas trop aller dans le sens de la sainteté, sinon ben, peut-être qu'il y a un risque que je sois pas pris.
Ah, tu veux dire qu'il faut te laisser tout seul dans ce challenge ?
Oui, si les gens sont trop gentils ou si ils sont sains, moi, je vais perdre mon emploi que je n'ai pas encore eu.
Il n'y a pas beaucoup d'emplois de sains aujourd'hui ?
Non.
Ah, merde. Ouais, flûte.
Flûte.
Crotte.
Crotte.
Ah, tiens, nous l'a bien.
Nous l'a bien.
Il faut bien se comporter dans la vie ?
Non.
Ah, bah écoute, on va rendre
me laisser l'emploi.
On va rendre l'antenne et continuer à se comporter comme des merdes.
Mais oui.
Merci à Monier.
Hein au revoir, Edouard. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je retourne sur les chemins de Compostelle.
C'était super en tout cas. On s'est éclaté.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
À demain.
À demain.
Merci à tous.
Merci à tous.
Au revoir. Arrêtez de répéter tout ce
Edouard.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.